Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. L'un des produits qu'a trouvé l'homme pour se nourrir, pour absorber calories et protéines indispensables à sa bonne santé, est aujourd'hui remis en cause par des mouvements qui sont parfois violents. Ce produit, c'est la viande. Les viandes de bœuf, de cochon, de poulet, de mouton et autres sont des produits de base de l'alimentation humaine. Ceux pour lesquels c'est trop cher aspirent à en manger plus. Mais ici en France et plus généralement en Europe, leur consommation, la manière dont les bêtes sont abattues, dont elles sont élevées, dont leur viande est échangée, tout cela est contesté pour des raisons liées au respect de l'animal et à l'impact de la consommation et surtout de la production de viande sur le réchauffement climatique. Malgré ce foisonnement rebelle, des millions de tonnes de viande sont échangées tous les ans, des millions de tonnes de soja destinées à l'élevage transitent sur les océans. Ces commerces sont-ils affectés, menacés, sont-ils voués à disparaître, se transforment-ils? Voilà les questions dont nous allons débattre aujourd'hui avec les deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Jean-Paul Simier.
Bonjour.
Jean-Paul Simier, vous êtes agronome et économiste, spécialiste des marchés agricoles et agroalimentaires. Voilà près de 25 ans que vous suivez de près, de très près, ce qui se passe sur les marchés mondiaux de la viande, suivi que vous résumez tous les ans dans Cyclope, la Bible des marchés de matières premières. Avec vous, en studio, Frédéric Courleux, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Courleux, vous êtes directeur des études du think tank Agriculture Stratégie, agroéconomiste, et vos travaux portent sur les modes de régulation des produits agricoles. Au cours de cette émission, des reportages, bien sûr, nous irons d'abord au Salon de l'agriculture avec Mélanie Costa et la grande Ariane Gaffuri, puis en Irlande avec Emmeline Vin, et à Montevideo, en Uruguay, où nous attend Théo Conscience. La porte de Versailles, où se tient le salon de l'agriculture, est à quelques hectomètres de RFI. Alors on commence naturellement cette émission là-bas, à la porte de Versailles, au salon de l'agriculture. Pour la première fois, la Chine s'apprête à importer de la viande de bœuf d'origine limousine, label rouge. Une décision déclenchée par la dégustation très médiatisée de cette viande par les présidents français et chinois. C'était au mois de novembre dernier à Shanghai, lors de la foire aux importations chinoises. Depuis, les Chinois ont signé une lettre d'intention qui porte sur l'importation de 1000 tonnes de bœuf en 2020 des Chinois présents au Salon de l'agriculture et qu'a rencontré Ariane Gaffuri dans ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs.
Devant nous, une douzaine de vaches limousines à la robe rousse, ruminent allongées sur un lit de paille. C'est leur viande estampillée label rouge que Jean-Marc Escure défend. Il est directeur de Limousin Promotion.
On est sur une viande avec un grain très très fin et un persillé qui lui donne des qualités remarquables. Donc ensuite, on est sur des animaux qui sont élevés à l'herbe au minimum 6 mois par an. Et avec le cahier des charges label rouge, on impose 80% de l'alimentation au minimum qui provient de l'exploitation.
Une viande haut de gamme que les Chinois souhaitent importer. Jean-Marc Escure.
Il y a un engagement pour 1000 tonnes de bœuf et 1000 tonnes de porc par un client. La crise sanitaire du coronavirus a retardé le démarrage. Aujourd'hui, on est prêt et dès que la crise sera levée, on pourra commencer nos exportations.
Ce serait un contrat de combien à peu près ?
La volonté, c'est d'expédier des carcasses en entier, des ossés mis sous vide, des congelés, parce que c'est comme ça que ça peut se faire, et de payer aux éleveurs le juste prix, 5,20 € du kilo avec carcasse. Donc après, il faut découper, il faut surgeler, il faut expédier. On aura un chiffre d'affaires d'exportation qui se basera, on va dire, autour de 10 € du kilo exporté, fois le nombre de kilos.
Et donc un contrat de 10 millions d'euros pour 1000 tonnes de viande.
On est sur une côte de bœuf Limousin, label rouge, blason prestige.
C'est excellent. Excellente, le bœuf limousin. Merci beaucoup. Je m'appelle Jimmy Yang. Je représente Channel Gate à la porte de Chine. C'est une société qui gère aujourd'hui 8 zones franches. Et cette zone franche permet à faciliter l'import et l'export, mais qui permet aussi à faciliter les consommateurs chinois à entrer dans ces zones pour acheter des produits importés sans payer les taxes douanières. Et avec un TVA très très intéressant. Vous savez qu'aujourd'hui, une classe moyenne chinoise représente plus de 400 millions d'habitants. qui ont un besoin de la consommation des produits alimentaires de qualité. Le bœuf limousin, justement, fait partie de nos recherches.
La crise du coronavirus en Chine pourrait alerter les consciences et jouer en la faveur de ce projet. Zhu Minyang, directeur de China Gate.
Il y aura sûrement de plus en plus de gens qui feront attention à l'hygiène, aux qualités des produits alimentaires.
Et pour une traçabilité optimale, il y a la blockchain. Mathieu Borgé est directeur de Foodgates. C'est une plateforme en ligne d'export de produits d'excellence français à destination du marché chinois.
Donc la blockchain, c'est comme un coffre-fort digital qui permet de mettre tous les certificats de la naissance de l'animal jusqu'à la livraison en Chine et les rendre immodifiables pour pouvoir garantir leur traçabilité.
Avec l'épidémie de coronavirus, la plateforme Foodgates doit faire preuve de patience.
Nous, tout est bloqué, ça va repartir et on voit un intérêt encore plus marqué des Chinois pour la traçabilité. Donc oui, on a des mois très difficiles, mais c'est pour mieux repartir.
Un reportage d'Ariane Gaffury au Salon de l'agriculture. Beaucoup de choses dans ce reportage, Jean-Paul Simier. On va commencer par le début. 1000 tonnes de viande de bœuf pour la Chine. C'est un point de départ pour ces viandes charolaises, là?
Oui, c'est un point de départ. Alors la Chine, c'est un pays qui a fait irruption dans le marché mondial des viandes, finalement, assez récemment. Encore au début des années 2000, il était totalement absent. Et depuis 2015, il est devenu le premier importateur mondial de viande. Tout simplement pourquoi ? C'est parce qu'effectivement, c'est une population importante, mais c'est surtout un développement économique fulgurant de ces 20 dernières années, du fait de l'accession de la Chine aux marchés internationaux. Et donc, les Chinois ont faim de viande, comme ils ont envie de rouler en voiture ou acheter un smartphone, ils ont envie de manger de la viande. Alors, ils ont commencé par importer d'abord du porc, ce qui est la viande de base en Chine. Le premier producteur et consommateur de porc dans le monde, c'est la Chine. Et puis ensuite, ils ont développé leurs importations sur la viande ovine, dont ils sont aussi aujourd'hui les premiers importateurs. Et premier producteur d'ailleurs. Et puis maintenant, c'est le bœuf. Alors le bœuf, c'est plus inattendu parce que c'est une viande assez chère. Donc on ne voyait pas la Chine encore il y a même 5 ans sur le marché du bœuf. Et depuis 2 ans, depuis 2018, la Chine est devenue le premier importateur mondial de bœuf. Ils importent déjà plus de 2 millions de tonnes de bœuf aujourd'hui, ce qui est considérable. Hein. Pour donner un ordre de grandeur, l'Europe, c'est 7 millions de tonnes. Donc c'est presque...
C'est 7 millions de tonnes de production.
2 millions de tonnes de bœuf importés, 2 millions et demi de tonnes de bœuf
par
les Chinois. Donc, vous vous mettez en rapport avec les 1000 tonnes espérées pour les Français. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup d'exportateurs autres que la France sur le marché chinois. Alors, qui sont-ils? C'est d'abord les Sud-Américains, le Brésil en tête. Et puis l'Uruguay, je crois qu'on va en parler après, mais aussi les États-Unis qui sont déjà présents. Hein. Il faut savoir que Monsieur Trump a fait un voyage dès son élection en Chine pour ouvrir le marché chinois du bœuf. Et donc maintenant, il y a des flux de plusieurs milliers de tonnes déjà entre les États-Unis et la Chine. Et puis aussi, plus inattendu, des pays asiatiques. Savez-vous que aujourd'hui, le premier exportateur de viande bovine dans le monde, c'est l'Inde? Oui, aussi surprenant cela puisse-t-il paraître, l'Inde, qui est un pays qui n'est pas un grand consommateur de viande bovine, mais qui est un grand producteur de viande de bœuf, notamment ce qu'on appelle le karabif, et qui est une viande qui est exportée notamment essentiellement dans l'Asie du Sud-Est, et on a aujourd'hui des flux non négligeables de viande de bovine entre l'Inde et la Chine. Alors en fait, en Chine, pour le bœuf, il y a deux types de marchés. Il y a le marché, disons, bas de gamme, en provenance de l'Inde, et puis il y a un marché haut de gamme, ouais. Et c'est ce que espèrent récupérer les Français, si je puis dire, avec leur 1000 tonnes espérées, comme on vient d'entendre dans ce reportage.
5,20 € pour les producteurs, payés par les Chinois directement via les transformateurs, etc., c'est un bon prix?
C'est un peu mieux que le cours actuel, effectivement. C'est une filière qui a du mal à se rémunérer. Les producteurs de viande bovine sont parmi ceux qui ont les plus bas revenus. Ils sont 15 000 € en moyenne et les subventions représentent 170% de leurs revenus. Donc ils reçoivent plus de subventions qu'ils n'ont de revenus au final. Sur le reportage en lui-même, on voit bien qu'il ne s'agit pas de libéralisation. Le terme n'a pas du tout été employé. On n'est pas dans des accords de libre-échange en tant que tel. Il y a vraiment une stratégie de contrôle des Chinois et de leurs entreprises, de leur approvisionnement alimentaire. C'est vraiment une stratégie très forte pour eux. Ça s'intègre dans leur stratégie.
C'est-à-dire, c'est pas des appels d'offres. Ils lancent pas des appels d'offres en disant on a besoin.
Ils ciblent et ils ouvrent vraiment de manière ciblée et ils contrôlent tout. Ils sont pas dans une stratégie d'ouverture commerciale pour faire baisser leur prix intérieur.
C'est-à-dire, quand vous dites ils contrôlent tout, ça veut dire ils vont aller sur l'exploitation, voir comment les animaux sont nourris. Ils vont établir eux-mêmes une espèce de filière, de suivi de...
C'est eux qui viennent à nous plus que nous qui allons vers eux, en fait. On peut faire le parallèle avec d'autres filières, notamment en production laitière, sur la poudre de lait, notamment en Bretagne. Voilà, ils ont monté des partenariats économiques avec certains acteurs français et petit à petit, voilà, ils sont là dans une logique de puissance et c'est eux qui imposent les règles du jeu.
Jean-Paul Simier, pour qu'on voit les choses, même si on est à la radio, voyons-les, regardons-les. Cette viande, dans quel état est-ce qu'elle se promène à travers les océans ou à travers les continents? Est-ce qu'elle est, c'est de la viande sur pied, du bœuf, ou c'est des carcasses, ou des quartiers de viande déjà découpés qui arrivent en Chine?
La viande sur pied, c'est la forme la plus ancienne et la plus traditionnelle de commerce de la viande et qui existe toujours, aujourd'hui, Il y a, par exemple, une exportation, d'Uruguay vers la Turquie de 200 000 têtes de bovins vivants l'année dernière. Donc c'est pas, ou le mouton vivant entre l'Australie et l'Arabie Saoudite, ça reste un commerce important. Mais pour l'essentiel aujourd'hui, le commerce international de la viande, c'est 10% de la production mondiale de viande, c'est 34 millions de tonnes sur 334. C'est essentiellement de la viande qui est abattue, enfin les animaux sont abattus, et en général, c'est plutôt de la viande congelée, voire de plus en plus réfrigérée, parce que les temps de transport se raccourcissent. Donc aujourd'hui, pour aller entre l'Europe et la Chine, il faut 30 à 40 jours en bateau. Si demain, la route de la soie avec le train, c'est 20 jours, donc on pourra évidemment toucher plus peut-être sur de la viande réfrigérée, ce qui est déjà le cas par exemple pour la viande d'agneau aujourd'hui entre la Nouvelle-Zélande et l'Europe. Entre la Nouvelle-Zélande et l'Europe, vous avez ce qu'on appelle le chal, c'est-à-dire la viande réfrigérée sous atmosphère contrôlée qui arrive sans avoir été congelée. Donc on est dans un développement des... Le commerce de la viande est à la différence du grain, c'est un produit qui est très compliqué à gérer, à stocker et à transporter, puisqu'il est, il est encore vivant finalement, et donc il faut le froid, etc.
Il est encore vivant, oui.
La forme traditionnelle de commerce de la viande, c'était l'animal vivant. Puis ensuite, on a inventé la saumure, la charcuterie, etc., le sel, pour conserver le plus longtemps possible, pendant des mois, les morceaux de viande. Et puis après, finalement, le premier bateau qui traverse l'Atlantique réfrigéré, c'est à la fin du 19e siècle, c'est de l'Argentine vers le Royaume-Uni pour de la viande bovine. Et finalement, l'explosion du commerce moderne de la viande tel qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un commerce de carcasses et puis maintenant de morceaux, chaque morceau est dédié à un marché particulier, ce qui permet aussi de l'explosion du marché chinois. Par exemple, les oreilles de porc qui ne se vendaient pas en Europe, maintenant elles se vendent en Chine parce qu'on peut exporter uniquement les oreilles de porc et que les Chinois sont prêts à payer très cher l'oreille de porc plus que le jambon français par les Français, si vous voulez. Donc, il y a une espèce de segmentation du marché, mais donc la forme essentielle, c'est le réfrigéré et le congelé en conteneur. En conteneur sur le port de Shanghai. Moi, je connais bien la Chine, j'y suis allé souvent pour le business agroalimentaire, je connais la foire de Shanghai. Effectivement, par rapport aussi à ce que disait Frédéric sur les Chinois qui choisissent, il faut savoir qu'il y a un agrément sanitaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Chinois d'abord donnent une autorisation sur un pays, ils font une inspection générale sur les conditions sanitaires du pays, les agréments sanitaires, etc. Et ensuite, ils redonnent un deuxième agrément sur les abattoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, de mémoire, je crois, 5 abattoirs bovins qui sont agréés, il y a une dizaine d'abattoirs, enfin même 6 ou 7 dans le port, et c'est au bout de simplement ces séries d'agréments qu'ensuite éventuellement vous aurez l'autorisation d'exporter en Chine, sachant qu'il faut savoir que sur l'Europe, nous devons être le 6e pays en bœuf à être agréé, après l'Irlande, après les Pays-Bas, après le Danemark, après l'Allemagne. Donc c'est important, il ne faut pas bouder son plaisir, et il y a un marché effectivement
très
important.
Nous, vous voulez dire les Français?
Nous, les Français, oui. Ouais. Effectivement. Donc, on arrive maintenant. Pour moi, c'est du commerce de haut de gamme sur la viande bovine. Ça va être 1000 tonnes à... Il faut savoir que dans les restaurants chinois à Pékin, on peut manger une entrecôte 30, 50, 60 euros. C'est pour le chinois de la société, disons, qui s'est enrichi grâce à la mondialisation. C'est pas pour le chinois de la rue. C'est pas pour le migrant interne de la Chine, cette viande.
Frédéric Courleux.
Alors, 1000 tonnes, faut le resituer. La production de viande bovine en France, c'est 1,4 million de tonnes. Voilà. Pour les ordres de grandeur, c'est pas ça qui spontanément va modifier les équilibres ou les déséquilibres du marché de la viande où on a un acteur majeur, l'entreprise Bigard, qui fait plus de 50% des abattages en France, 70% du steak haché, et qui impose ses prix. Voilà, on est. J'ai même du mal parfois à parler de marché tant on est plutôt dans un oligopsone,
un monopole
qui contrôle ce marché et qui donne à ses fournisseurs ce qu'il estime être nécessaire pour les maintenir à flot. Voilà, théorie des coûts de transaction marche très bien avec la capture de la quasi-rente. Sur les Chinois...
Sur les Chinois, je voudrais qu'on parle du coronavirus, parce que
il
en a été beaucoup question lors du reportage d'Ariane Gaffuri. Est-ce que ce virus, qui est un virus humain, a vraiment un impact sur le marché de la viande?
Ce qu'on peut dire sur la Chine en matière, particulièrement en matière sanitaire, c'est que c'est un pays où ont démarré plusieurs crises sanitaires. Il y a eu le SRAS qui aussi a concerné la population humaine, mais pour ce qui est des maladies animales qui sont très liées d'ailleurs aux maladies humaines, on a eu la grippe aviaire au début des années 2000. Qui a été quand même, à l'époque, souvenez-vous, l'OMS était quand même en situation d'alerte maximum. Il y a eu plus de 300 morts en Asie du Sud-Est avec la grippe aviaire. Donc cette maladie est partie de Chine. Et puis on a, alors évidemment le coronavirus a un peu mis ça de côté, mais on a une maladie qui s'appelle la peste porcine, qui depuis 2 ans décime le troupeau porcin chinois, qui fait qu'on a aujourd'hui une pénurie de viande porcine dans le monde, puisque la production chinoise va diminuer quasiment de 40% en l'espace de 2 ans, ce qui est considérable puisque c'est la première du monde. Et 40%, c'est 20 millions de tonnes, c'est quasiment la production européenne. Donc, je fais le lien entre les maladies humaines et les maladies animales. L'OIE, l'Office international des épizooties, qui est basé à Paris, fait un point régulièrement et établit que en gros, 3/4 des maladies humaines sont d'origine animale, c'est-à-dire que les réservoirs de virus se recombinent ou peuvent se recombiner entre les cheptels animaux et la population humaine, surtout notamment en Chine, parce que pourquoi? Parce que densité de population, concentration urbaine, conditions sanitaires plus ou moins bien contrôlées. Hein. En Chine, il y a une tradition de vente d'animaux vivants en pleine ville. À Pékin, vous pouvez acheter une volaille vivante. Alors, ils sont en train de les fermer parce qu'effectivement, c'est beaucoup trop dangereux compte tenu de tout ce qu'on voit depuis une dizaine d'années en matière d'épizootie. Donc, il y a effectivement une présomption assez forte de la Chine vue comme un espèce de réservoir ou un pays potentiellement incubation rapide de ces maladies entre les cheptels animaux et les populations humaines denses.
Frédéric Colleux, l'impact de cette épidémie, de cette pandémie peut-être de coronavirus sur le marché de la viande, il est réel? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà le constater?
Sur le coronavirus, ce serait un peu aller vite en besogne que de conclure. Mais c'est sûr que voilà, on est sur un concept de One Health. Il y a une seule santé et les questions de sanitaire pour les animaux et de santé pour les hommes sont en fait intimement liées. Faut ajouter aussi que sur les questions de sécurité sanitaire et alimentaire en Chine, il y a eu le scandale de la mélamine. Où il y a aussi une prise de conscience au niveau des autorités chinoises.
Rappelez-nous ce que c'était.
D'un besoin. Donc c'était... Il y avait eu une fraude de certains acteurs des filières laitières qui rajoutaient de la mélamine, donc un produit chimique pour faire augmenter le taux de protéines dans le lait. Et il y a eu un certain nombre d'intoxications d'enfants. Et depuis, les Chinois achètent beaucoup de lait infantile partout dans le monde, et notamment en France. Donc voilà, la prise de conscience de la sécurité sanitaire croît en Chine. Et effectivement, ils se tournent vers des pays comme la France, comme l'Europe, qui ont fait des efforts depuis maintenant plusieurs décennies pour améliorer l'hygiène et pour contrôler les aspects sanitaires de l'élevage.
Oui, Jean-Paul Simier, oui.
Ça, c'est un point important, ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'avantage comparatif en termes de volume, ni même en termes de prix, je pense. Mais nous en avons un, certainement, c'est en termes de qualité de maîtrise sanitaire.
Quand vous dites « nous », c'est la France.
La France ou les Européens, de façon plus générale, même si, soyons prudents, nous avons été aussi affectés par la vache folle dans les années 90, nous avons eu la grippe aviaire du poulet dans les années 2000, et nous ne sommes pas exempts de l'épidémie des coronavirus, donc on ne peut pas dire que ça ne concerne que les populations asiatiques et pas l'Europe, mais il est évident que sur les filières animales, nous avons une véritable stratégie de contrôle, d'ailleurs que souvent, parfois, les producteurs reprochent aux États, mais en l'occurrence, c'est un avantage comparatif aujourd'hui dans la mondialisation.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons du marché mondial de la viande avec deux invités, Jean-Paul Simier et Frédéric Courleux. On parlait de la Chine. La France n'est pas la seule à vendre de la viande à la Chine, on s'en doute. Exemple avec un petit pays d'Amérique latine, l'Uruguay. Dans ce pays où l'on compte trois fois plus de vaches que d'habitants, la viande bovine représente le tiers des exportations. Et 2019 a été une année record. La fièvre porcine a poussé la Chine à se tourner vers des produits de substitution. Vous nous le disiez, Jean-Paul Simier. Et ces importations de viande rouge se sont envolées. Une aubaine pour les éleveurs bovins uruguayens qui doivent cependant faire face à la volonté chinoise de renégocier le prix de ces importations. En Uruguay, c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Théo Conscience.
Avec les Argentins, les Uruguayens sont les premiers consommateurs de viande rouge au monde. On pourrait dire que la viande de bœuf est à l'Uruguay ce que le vin rouge est à la France. À Montevideo, il suffit de pousser la porte d'une boucherie pour s'en rendre compte.
On mange de la viande tous les jours. C'est un peu compliqué car les prix augmentent, mais on en mange tous les jours.
Comme beaucoup de consommateurs, Adriana Coruelo a ressenti l'augmentation des prix de la viande rouge, qui ont bondi de plus de 25% en 2019. De l'autre côté du comptoir, son boucher Germán Amilones a noté une baisse des ventes malgré l'attachement des Uruguayens au traditionnel asado, sorte de barbecue local.
C'est une constante en Uruguay. S'il y a du soleil, on allume un feu. Et s'il y a de la pluie, on trouve une solution. Mais le dimanche, il y a toujours un asado. Mais en effet, le prix de la viande a augmenté à cause des exportations.
La hausse des prix pour le consommateur est liée à l'augmentation de ceux des exportations, vers la Chine notamment. À cause de la fièvre porcine, le géant asiatique a cherché des produits de substitution et le prix et les volumes des exportations de viande rouge uruguayenne vers ce pays ont atteint des niveaux records. Direction la commune rurale d'El Carmen, dans le centre du pays, pour rencontrer l'un de ceux qui ont le plus bénéficié de cette conjoncture, un éleveur bovin. Sur sa propriété de 1700 hectares, Gabriel Capurro élève 500 vaches ainsi que des moutons. Il est également président de l'Association uruguayenne d'agriculture.
L'année a été bonne. Le chiffre d'affaires de toutes les exploitations bovines s'est amélioré, entre 30 et 40% de plus que l'année d'avant. Mais cette hausse des prix de la viande s'explique par une conjoncture très spéciale qui ne peut pas durer. De fait, le prix a déjà baissé de 20%.
Après une année de hausse continue du prix de ses importations de viande, la Chine a décidé en novembre de reprendre la main. Le pays a entrepris une renégociation des prix et certains éleveurs uruguayens se sont retrouvés dans une situation délicate.
Quand les prix sont très hauts, souvent les gens s'emballent et investissent dans des systèmes productifs qui sont difficiles à maintenir quand les prix baissent. Et souvent, il faut les démanteler. C'est arrivé beaucoup de fois en Uruguay. De nombreux producteurs ont perdu toutes leurs économies pour s'être emballés et avoir fait des investissements qu'ils n'ont pas pu soutenir par la suite.
Si l'incertitude demeure sur le niveau des prix, la demande chinoise devrait continuer d'augmenter l'an prochain. Une bonne nouvelle pour les éleveurs, avec un risque cependant. Accentuer leur dépendance à l'égard de la Chine, qui concentre déjà les deux tiers des exportations de viande uruguayenne.
Un reportage signé Théo Conscience à Montevideo. Frédéric Courleux, Théo Conscience confirmait, corroborait dans son reportage que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le contrôle absolu des Chinois sur... ce qu'ils achètent et à quel prix. C'est-à-dire, c'est eux qui mènent la danse, qui dictent les règles.
Oui, la figure de l'équilibre de marché et l'équilibre entre l'offre et la demande qui forme un prix, c'est une vision assez réductrice de ce qui se passe réellement. Les Chinois contrôlent au maximum leur approvisionnement. C'est un enjeu de sécurité alimentaire considérable à la base de la stabilité de leur régime. Si on fait un petit écart et qu'on remonte dans l'Amérique du Nord, voilà, ils ont acheté en 2013 Smithfield, qui est le premier acteur du porc aux États-Unis, 13 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc voilà, ils ont une stratégie de maîtrise qui passe par des investissements directs à l'étranger.
Et les Américains ont donc laissé acheter.
Tout à fait. Et en plus, c'est une filière très intégrée aux États-Unis. Il y a eu peu de régulation dans le secteur de la viande aux États-Unis, contrairement aux autres secteurs, si bien que Smithfield contrôle directement des fermes en fait. C'est l'abattoir qui a intégré les fermes. Donc Donc Smithfield a acheté des fermes aux États-Unis. Chinois ont acheté des fermes aux États-Unis.
Jean-Paul Simi, on a changé de zone. Là, on est passé de la Chine et de l'Europe vers le continent américain. On sait quel est l'appétit, on l'a entendu, des Argentins, des Uruguayens ou même des Brésiliens pour la viande. Quand on va à Buenos Aires, on peut manger des steaks d'un kilo. Quel est le poids de ce continent du nord au sud dans les échanges, dans la production mondiale de viande?
L'Amérique du Sud, en partie l'Uruguay, ce fut un grand pays de la viande. C'est le pays avec l'Argentine, le Rio de la Plata. C'est là où il y a énormément de ressources en surface et pour pouvoir produire effectivement de la viande bovine de façon extensive. Je parlais tout à l'heure du premier bateau entre l'Argentine et le Royaume-Uni à la fin du XIXe siècle. Et puis finalement, on les a vus ils ont disparu du marché des viandes d'une certaine façon. L'Uruguay n'est plus que le 10e exportateur mondial de viande bovine, alors qu'il fut longtemps le premier avant les années 80. D'ailleurs, c'est un pied de nez d'histoire, le cycle de libéralisation agricole s'appelle l'Uruguay Round. Et c'était évidemment qu'à l'époque, ce pays espérait beaucoup de la libéralisation agricole, notamment sur les grains, ce qui s'est passé, sur les céréales. Et moi, ça fait longtemps que je dis que le prochain match, et on est en train de le vivre maintenant, de libéralisation de l'agriculture, c'est l'élevage. En particulier, donc, le prochain cycle de libéralisation, mais il ne se fera pas de façon multilatérale, il se fera de façon, à mon avis, désordonnée dans le rapport de force, ou mieux, de façon bilatérale. C'est le cycle des viandes. Alors l'Uruguay produit 600 000 tonnes de viande, on exporte 400 000 et la moitié vers la Chine. Et là on voit effectivement aussi le côté déstabilisateur finalement d'une mondialisation qui ne serait pas maîtrisée dans le domaine alimentaire, puisqu'après un effet dépressif sur les prix pendant 20 ans qui a suivi les accords de l'Uruguay Round, notamment sur les prix européens et occidentaux, on voit maintenant un effet à l'inverse, c'est-à-dire que l'ouverture de la Chine rapide qui est obligée d'acheter. Parce que la Chine, en ce moment, du fait de la peste porcine, est en train, littéralement, d'assécher le marché international des viandes.
Moi, c'est un énorme aspirateur à viande, comme ça a été un aspirateur à beaucoup de matières premières.
Alors, ça va peut-être pas durer. C'est toute la question. Mais combien de temps? Ça fait plus de 20 ans que je regarde le marché des viandes. C'est une situation totalement inédite. Il manque aujourd'hui 20 millions de tonnes de viande de porc en Chine. Donc, il faut absolument acheter et du porc pour les Chinois, et du bœuf, et du mouton, et des volailles. Et donc, évidemment, à court terme, tous ces pays vont avoir envie de vendre à la Chine, mais le tout est de savoir pour combien de temps, et est-ce que on va pas avoir un effet de reflux
d'emballement, comme on l'a dit dans le reportage. Voilà, c'est un enjeu. On a connu la même chose sur le lait, 2013-2015. On disait justement avec le scandale de la mélamine que le marché chinois allait être infini. Beaucoup de producteurs, y compris en France, ont investi, ont voulu se développer. Malheureusement, on sait que l'offre agricole répond très bien au prix à la hausse, mais pas à la baisse. Donc, ils ont investi, ils se sont emballés, pour reprendre le terme de votre reportage. Et l'offre a rattrapé la demande, les stocks se sont reconstitués et on a connu une crise 3 ou 4 ans après.
Quand vous dites que la production agricole répond plus facilement à une hausse des prix qu'à une baisse, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ?
Alors, dans un contexte de prix élevés, les agriculteurs investissent, trouvent de nouvelles terres, améliorent leurs semences, construisent de nouveaux bâtiments, et donc l'offre se développe. Donc il y a une réactivité assez forte de l'offre agricole au prix quand ils sont à la hausse. Malheureusement, on sait qu'on n'a pas l'inverse quand les prix partent à la baisse. L'ajustement de l'offre à une baisse de prix ne se fait pas aussi facilement.
Parce qu'entre-temps, on a construit des grands...
On a investi de l'argent, on a construit un
appareil de production.
Et il faut continuer de rembourser. Donc individuellement, les agriculteurs n'ont aucun intérêt à baisser leur production face à des prix bas. Donc on se retrouve alors en crise de surcapacité, en surproduction. Et ça peut durer très longtemps si les pouvoirs publics n'interviennent pas pour faciliter l'ajustement de l'offre. Donc on a comme ça effectivement des yo-yo sur les marchés internationaux. Et on voit bien qu'à chaque fois, c'est un problème climatique ou sanitaire qui met le feu aux poudres, qui entraîne des tensions sur la sécurité alimentaire. Les producteurs réagissent et réagissent tellement bien qu'on se retrouve quelques années après en surproduction.
Alors on a relativement peu parlé des États-Unis, pourtant c'est un grand pays producteur consommateur de viande. Jean-Paul Simier, il y a la bourse de Chicago où les viandes sont cotées. Est-ce que les États-Unis jouent un rôle important sur le marché mondial de la viande, ou est-ce que c'est une production pour une consommation intérieure?
Oui, les États-Unis jouent un rôle important de par l'importance de leur production. Ils sont parmi les premiers producteurs mondiaux de viande bovine, de volaille, et aussi de porc. Ils ont des filières qui sont extrêmement intégrées, efficaces d'un point de vue économique en tout cas, ce qu'on pourrait appeler des systèmes d'intégration industrielle, avec des tailles d'élevage qui n'ont rien à voir avec nos élevages européens, c'est-à-dire qu'ils sont, pour des feedlots, ça peut être 30, 40 000 animaux, 40 000 bovins, pour des élevages porcins, ça peut être plusieurs milliers de truies qui appartiennent souvent, effectivement, on parlait de Smithfield tout à l'heure, Smithfield possède à lui tout seul 700 000 truies, hein, c'est plus que le cheptel français.
Donc ça, c'est une entreprise américaine qui appartient à des Chinois, on rappelle.
Voilà, c'est une efficacité d'entreprise, de système américain, pour aller vite, capitaliste, qui est assez importante. Et on voit actuellement une remontée en force assez importante de l'industrie de la viande aux États-Unis. Alors le bœuf a été affaibli, parce que épisode de sécheresse récurrent, ça, la sécheresse c'est un élément déterminant. Enfin, le réchauffement climatique va être un élément déterminant demain, je le dis tout de suite, pour beaucoup de pays dans le monde pour l'élevage, y compris les États-Unis. Mais par exemple dans le porc, on voit actuellement une très forte montée en puissance de l'industrie porcine américaine, avec l'ouverture de nouveaux abattoirs qui sont extrêmement beaucoup plus gros que les nôtres. Et aussi avec de nouveau la géopolitique qui intervient, c'est-à-dire une offensive extrêmement forte de Donald Trump, de l'administration Trump, pour ouvrir les marchés extérieurs, tout azimut. En premier lieu, le marché chinois. Je parlais tout à l'heure du voyage de Trump dès son élection en Chine l'année dernière. Et il faut savoir, on a beaucoup parlé de la guerre commerciale sino-américaine depuis plus d'un an. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de mettre tous leurs droits de douane sur les viandes à zéro, pour faciliter au maximum l'importation de viande américaine, ce qu'ils n'ont pas encore fait pour le partenaire européen. Et si bien que l'année dernière, à la surprise de tout le monde, et contrairement aux prévisions, les exportations américaines de porc vers la Chine ont battu des records. De mémoire, je crois qu'elles ont augmenté de 70% par rapport à l'année 2018. Donc effectivement, un acteur américain qui revient dans le jeu avec une stratégie de conquête des marchés, une intégration verticale très forte de la production, et donc qui va effectivement aller sur tous ces marchés émergents, en particulier asiatiques.
Jean-Paul Simier, on sait que les bourses Wall Street, tout le monde le sait, oui, jouent un rôle fondamental pour orienter les cours boursiers mondiaux. Est-ce que la bourse de Chicago joue ce rôle-là
Sur les grains, oui, sur les viandes, il y a des cotations de viande de porc, notamment une viande de bœuf à la bourse de Chicago, des futures sur des produits, mais
c'est les marchés à terme.
Voilà, mais c'est assez limité en quantité. On a des quantités résiduelles qui sont là depuis des années, mais c'est moins de 10%. Largement du commerce international de la viande.
Frédéric Courleux, est-ce qu'on spécule sur la viande comme on spécule sur le blé, sur le pétrole, sur le café, sur le cacao ?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché, si tant est qu'on puisse parler de marché de la viande, est tellement contrôlé par un Olly Gobson que c'est eux qui font les prix.
Donc, Olly Gobson, c'est un monopole.
Un monopole de consommateurs, un quasi-monopole de consommateurs. Il y a une demi-douzaine d'acteurs qui font plusieurs dizaines de milliards de chiffres d'affaires dans le secteur.
Et
c'est eux qui fixent les prix.
Qui sont-ils ?
Alors, il y a Tyson Foods, par exemple, un Américain. Cargill aussi, un gros acteur aussi dans les viandes, pas seulement dans les céréales. Après, il y a des Brésiliens, JBS, Marfrig. Le premier européen, Vion, est loin derrière. On n'a pas du tout la même concentration. Donc, quand on a ce niveau de concentration, en fait, on n'a pas envie d'avoir une transparence sur la formation des prix. Donc, on n'atteint pas la condition nécessaire à la création d'un marché financier. Donc, les marchés financiers ne peuvent pas se développer parce que les financiers veulent pas aller sur des marchés coupe-gorge sur lesquels ils n'ont pas assez d'informations. Donc non, contrairement aux céréales, sur Chicago, ces marchés-là ne sont pas vraiment une référence pour les acteurs. Pour revenir sur les États-Unis et sur au-delà de la situation d'urgence de Chinois qui ont besoin de s'alimenter, notamment en porc, il y a effectivement une augmentation importante des importations chinoises depuis les États-Unis. Ils ont baissé des droits de douane, mais ils gardent tout ça sous contrôle, c'est des contingents tarifaires et ils n'ont pas du tout l'intention de déstabiliser leur marché intérieur. Les prix chinois restent les plus élevés au monde. Le prix du porc est quasiment toujours 2 à 3 fois plus élevé qu'en France et en Europe, alors que ce prix européen a pris 50% depuis le début de la fièvre porcine.
Jean-Paul Simier, je voudrais vous entendre sur ce que Frédéric Colleux appelle l'Olly Gobson, le monopole des consommateurs.
Oui, c'est-à-dire que moi qui travaille depuis longtemps sur le marché des matières premières avec Cyclope. Effectivement, la viande ne répond pas à la définition classique de la commodité, comme on dit en anglais, la matière première, pour parler français, c'est-à-dire un produit fongible, c'est-à-dire qu'une tonne égale une tonne. J'ai expliqué rapidement tout à l'heure qu'en fait, c'est un produit hyper segmenté. L'animal est éclaté en plusieurs dizaines, voire vingtaines de morceaux. Et donc, il n'y a pas de facilité pour coter sur un marché à terme toutes les semaines ou tous les deux jours le même type de produit, quelle que soit son origine et sa destination, ce qui est à l'inverse du sucre, de l'huile,
du café,
café, etc. Donc ça, déjà, c'est l'explication première, c'est la caractéristique du produit. Après, il y a ce que je disais aussi, là, c'est ces problèmes de conservation, etc. Et puis, effectivement, le commerce de la viande, ce n'est que 10% de la production mondiale de viande aujourd'hui, encore. Même s'il a beaucoup, il s'est beaucoup développé, il se développe deux fois plus vite que la production depuis 20 ans. 10% entre les mains de quelques pays, que ce soit en bœuf, en porc ou en volaille.
Mais alors, comprendre, c'est entre les mains de quelques pays ou de quelques grandes entreprises?
Non. D'abord des pays, c'est-à-dire en gros les États-Unis, l'Europe et puis maintenant de plus en plus certains pays asiatiques et aussi quelques pays latino-américains comme le Brésil. Enfin, États-Unis, Brésil, Europe, déjà vous avez le trio qui fait 60-70% des exports de viande. Et à l'intérieur de ces pays, effectivement, comme l'a rappelé Frédéric, vous avez des firmes qui sont en situation souvent dominante. Alors, il n'a pas cité, mais il faut la citer, c'est Wangi, hein, qui est la firme chinoise qui a racheté Smithfield. Et puis, vous avez aussi une firme thaïlandaise, Chapren, qui aujourd'hui, parce que la Thaïlande est l'un des premiers exportateurs de viande de volaille. Donc, ce qu'on voit aussi émerger aujourd'hui, c'est la fin du monopole occidental. Le monde de la viande, jusqu'aux années 2000, c'était l'Occident. L'Occident, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud par extension, et puis le Japon comme pays importateur, et puis c'était tout. Depuis une quinzaine d'années, on voit émerger des systèmes autonomes, et ça, je pense que c'est très intéressant, des systèmes de production et de transformation autonomes, et donc de prise de contrôle capitalistique par des entreprises chinoises, thaïlandaises, coréennes. Alors, on n'a pas parlé de la Russie, qui est un pays un peu à part du fait de l'embargo, mais qu'il ne faut pas oublier non plus. Je pense que le jeu sera quand même plus ouvert demain qu'il ne l'était.
Retour vers le passé, puisque vous nous dites que l'Europe, c'est le passé. Partout en Europe, et les agriculteurs, et en particulier les éleveurs bovins, sont dans une grande précarité et protestent contre des revenus trop bas. En Irlande, depuis 18 mois, certaines organisations bloquent des abattoirs et les centres-villes pour réclamer un meilleur prix au kilo. La situation de ces agriculteurs pourrait s'aggraver dans les prochains mois avec le Brexit. L'Irlande exporte en effet 40% de ses produits agroalimentaires vers son voisin, 50% de sa viande de bœuf. Un reportage Éco d'ailleurs, signé Emmeline Vin à Dublin.
Des charolaises, des limousines, Eamon Corley possède 130 vaches dans le comté de Meath, au nord de l'Irlande. En raison des inondations qui ont frappé le pays en février, il ne nous reçoit pas dans sa ferme, mais dans un café. Comme beaucoup, cet éleveur bovin s'inquiète pour la future relation commerciale UE-Royaume-Uni.
The UK takes the highest end steak cuts from Ireland.
Le Royaume-Uni prend les meilleurs morceaux des bœufs irlandais. C'est un marché essentiel. Si l'on se retrouve avec d'importants droits de douane, cela va devenir non économique d'exporter notre bœuf au Royaume-Uni. Nous, les agriculteurs irlandais, devrons soit arrêter de produire du bœuf, soit trouver d'autres marchés.
Les éleveurs bovins perdent déjà près de 200 euros par tête et ne survivent que grâce aux subventions européennes. Moins produire, changer de stratégie, c'est ce qu'a prévu Eamon Corley.
C'est sûr, je vais réduire ma production et puis je vais me pencher sur l'idée d'une coopérative entre producteurs. Je travaillerai moins dans ma ferme, mais davantage à ajouter de la valeur à ma viande, par exemple en travaillant en circuit court.
Les négociations commerciales doivent durer jusqu'au 31 décembre. Au-delà, c'est le flou. Edmund Phelan dirige l'association irlandaise Bovine et Ovine.
Nous exportons 500 000 tonnes de bœuf chaque année, dont plus de la moitié part au Royaume-Uni. Si ce marché se ferme, qu'est-ce qu'on en fait? Toute cette viande devra trouver sa place en Europe. Ça aura un effet domino énorme dans l'Union européenne qui va faire baisser les prix.
Les membres de son organisation n'ont pas, dit-il, les moyens d'absorber une énième baisse des prix. Mais Edmund Phelan ne perd pas espoir.
Pour faire ce métier, il faut être optimiste, sinon vous n'y arrivez pas. Je pense que le Brexit va se résoudre. Au bout du compte, c'est le pragmatisme qui primera.
Il y aura un accord. John Fitzgerald aussi y croit. Mais ce professeur adjoint d'économie à Trinity College insiste. Dans le secteur agricole, ce sont bien les éleveurs bovins qui seront les plus durement touchés.
Les éleveurs laitiers d'Europe sont payés au prix du marché mondial. Mais pour le bœuf, le prix européen est largement au-dessus du marché mondial. Si le Royaume-Uni s'ouvre à des pays tiers, le prix va certainement chuter de manière très significative.
Pour lui, la solution ne passe pas par l'ouverture à d'autres marchés, précisément à cause de ces écarts de prix.
Il faut sortir du bœuf, se lancer dans l'agroforesterie. Même s'ils ne convertissent qu'une partie de leurs terres en agroforesterie, ils seront bénéficiaires sur le long terme. Dans le bœuf, ils ne font déjà pas d'argent, et ça ne fera qu'empirer.
Même en cas d'accord de libre-échange avec les Britanniques, le secteur devra évoluer pour survivre. Sans accord et avec l'imposition de droits de douane, la Banque centrale d'Irlande prévoit une chute de 40% des exportations de bœuf dès 2021.
Emeline Vahn Dublin, dans son reportage qui vous faisait réagir, Jean-Paul Simier, leur situation est difficile, visiblement.
Oui, tout simplement, le Brexit, ce n'est pas terminé.
Le Brexit commence.
Le plus dur commence, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un pays qui est totalement dépendant du Royaume-Uni pour sa production laitière et de viande bovine, puisque, comme ça a été dit, il exporte la moitié de sa production de bovine au Royaume-Uni. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Il y a un commissaire irlandais au commerce maintenant qui est Phil Hogan, qui, j'imagine, va veiller au grain pour préserver l'intérêt de son pays. Mais néanmoins, il est évident que les Britanniques peuvent choisir le grand large, c'est-à-dire revenir aux traditions antérieures du Commonwealth, c'est-à-dire de dire finalement l'approvisionnement en viande bovine sur le marché européen, c'est pas mon sujet, y compris d'Irlande. Et moi, je préfère acheter, ça fait le lien avec les sujets précédents, de la viande en provenance d'Uruguay, en provenance du Brésil, en provenance des États-Unis, parce que Monsieur Trump a bien l'intention de réouvrir le marché européen du bœuf, parce que on n'en a pas parlé, mais le conflit des hormones, à mon avis, va se réouvrir. En fait, il n'a jamais été fermé. Donc, il est évident que pour l'élevage irlandais, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant, d'autant plus qu'ils ont Ils sont rentrés avec le Royaume-Uni dans l'Union européenne en 1973. Ils ont développé leur pays et en particulier leur agriculture grâce à la politique agricole commune et à l'intégration dans le marché européen. Si demain leur partenaire essentiel en sort, il est évident que le système ne fonctionne plus. Donc l'inquiétude est là, c'est évident.
Frédéric Courleux, c'est une situation très inquiétante pour les Irlandais ?
Il y a un retour de fortune assez important en Irlande. Ils se voyaient très optimistes il y a quelques années, notamment quand les prix du lait étaient élevés. Ils se voyaient comme les champions. Ils ont augmenté la production assez largement depuis une dizaine d'années. J'ai pas exactement les chiffres, mais c'est une évolution à deux chiffres. Ils ont profité d'un dumping environnemental. Il faut le rappeler. La réglementation européenne en matière d'épandage des fumiers et des lisiers, ils ont des dérogations qui leur permettent d'épandre 40% de plus que chez nous en France, par exemple. Donc voilà, s'il y a un resserrement des règles environnementales d'un côté et puis un débouché naturel qui se ferme, effectivement, ça va être compliqué pour eux. Après, sur le sujet de l'agroforesterie, effectivement, c'est un sujet qui est en train de monter du côté d'ONG environnementale qui pose cette question-là, de savoir si il faut pas retirer des terres de la production pour capter le carbone. Donc on voit bien émerger des débats assez compliqués autour de la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique. Alors, et tout n'ira pas dans le même sens.
Justement, vous me fournissez la transition pour introduire le dernier reportage de cette émission. En Europe, en particulier, des mouvements hostiles à la consommation de viande se développent. Des militants antispécistes ou véganes étaient il y a quelques jours à la porte du Salon de l'agriculture à Paris pour faire entendre leur point de vue. Un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Mélanie Costa.
Bonjour, une minute s'il vous plaît.
Fleurs et pancartes entre les mains, les militants de l'association Paris Animal Save essayent d'arrêter les camions au feu rouge. Ils veulent alerter les citoyens. Pour Georges, le salon de l'agriculture est un symbole de l'exploitation animale.
Pour ne pas qu'on les voit exprès.
Je suis contre le salon de l'agriculture, je suis contre l'exploitation animale, donc sous n'importe quelle forme. Donc voilà, donc nous on est là pour filmer les animaux, pour essayer d'exposer cette cruauté et voilà, de montrer la vérité qui est cachée.
Georges est arrivé à 7h et est muni d'une perche et d'une caméra.
J'ai filmé l'arrivée du camion et j'ai filmé les animaux qui étaient à l'intérieur, il y en avait environ 8. On voit les vaches qui sont assez serrées l'une contre l'autre et donc les vaches elles étaient couvertes de boue. Donc j'utilise ces images après pour les repartager, faire des montages, voilà.
Les activistes se définissent tous comme antispécistes. Sylvère Dumazel, porte-parole de l'association.
Il faut qu'on montre en fait l'opposition qu'il y a dans la société à considérer les animaux de manière spéciste, c'est-à-dire à discriminer les animaux simplement parce qu'ils sont d'une autre espèce que la nôtre, et sensibiliser les gens en fait que il y a une violence en fait, la viande est toujours le produit d'une violence et l'exploitation des animaux se fait contre leur volonté des animaux, contre leur gré quoi, toujours.
L'objectif, l'abolition de l'élevage et donc la fin des abattoirs. Interpellé par l'action, un éleveur est venu exposer sa situation aux militants.
Moi, je suis un paysan, quoi. Je vis avec mon jardin, je vis avec mes bêtes, je vis avec ma terre, je vis à l'ancienne. Et j'ai pas l'impression de maltraiter les animaux ou d'être un gros tueur. Ou... J'essaie de faire les choses correctement. Et après, j'ai une famille à nourrir et j'ai des vaches. Et si j'ai besoin d'argent, ben oui, je vends des bêtes à l'abattoir. Ça, c'est du bon boulot, quoi. Même si je fais de la viande.
En fait, on est quasiment d'accord, sauf sur la mise à mort, quoi.
Les agriculteurs français se sentent souvent lésés par les actions parfois musclées des militants, et notamment dans les élevages. Colline Mailleux est salariée agricole dans une exploitation de vaches laitières.
Ça fait mal parce que ça montre une mauvaise image de notre métier. On a de la chance de vivre dans un pays où on a la meilleure agriculture du monde. Il faut vraiment ouvrir les yeux et voir ce qui se passe dans d'autres pays et voir comment les animaux sont traités dans d'autres pays.
Le ministère de l'Intérieur, à la demande de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, a mis en place en décembre la cellule Déméter, une convention signée pour lutter contre l'agribashing.
Reportage signé Mélanie Costa au Salon de l'agriculture à Paris. Jean-Paul Signé, est-ce que ces mouvements ont un impact sur la consommation de viande en France et ailleurs ?
Dans le monde, non. La consommation de viande continue à croître, même au-delà des prévisions qui sont faites régulièrement par les organisations internationales comme la FAO ou l'OCDE. En fait, on révise plutôt à la hausse les chiffres qu'à la baisse. Pour quelques chiffres simplement, elle a doublé depuis le début des années 80. Et elle a quintuplé depuis le début des années 60. Et d'ici à 2050, on prévoit, en gros, elle augmentera encore de 40%. Et deuxième chose, cette augmentation n'est plus le fait des pays occidentaux, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, mais le fait des pays dits émergents, voire des pays en développement comme l'Afrique. Demain, c'est donc la Chine, l'Asie du Sud-Est. Les pôles de croissance demain qui sont identifiés par tous les experts internationaux, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Afrique subsaharienne, c'est évidemment l'Asie avec le Vietnam, l'Indonésie qui fait 220 millions d'habitants, les Philippines, 100 millions d'habitants. Donc c'est là qu'on le monde, je dirais, d'une certaine façon, à fin de viande. Après, on en conclut ce qu'on peut en conclure, mais en tout cas, dans les faits, dans les chiffres, c'est pas du tout ce qu'on voit. Et simplement, sur la prescription par rapport à la consommation de viande, c'est vieux comme le monde, comme l'élevage, finalement. L'élevage a toujours accompagné le développement de l'humanité depuis très longtemps, depuis plus de 10 000 ans. La consommation de viande a toujours fait l'objet de prescriptions. Alors avant, c'est toujours d'ailleurs des prescriptions religieuses. Hein, la religion, toutes les religions monothéistes du livre avaient des prescriptions. Maintenant, on a aussi des prescriptions, disons, non religieuses, mais ça reste des prescriptions.
Frédéric Courleux, est-ce que... On a vu cette prescription non religieuse des antispécistes, mais il y a aussi des gens qui disent que l'élevage contribue fortement au réchauffement climatique. Est-ce que cette critique-là peut avoir un impact plus important que celle des antispécistes ?
Alors, les deux sont peut-être liés, mais comme l'a dit Jean-Paul, effectivement, au niveau mondial, la consommation de viande, quelle qu'elle soit, augmente. En France et en Europe, on observe une décroissance de la consommation de bœuf. Sur le porc, c'est assez stable, et ça continue de monter sur la volaille. Alors, d'un point de vue environnemental, si on rentre et qu'on parle agronomie, il y a une étude très bonne de l'IDRI, Institut de Développement
Durable
et des Relations Internationales, qui montre bien que si on intègre le cycle de l'azote dans l'analyse, on voit bien que la viande bovine qui mange de l'herbe pour l'environnement, c'est une bonne chose. Pour occuper l'espace, pour stocker du carbone dans les pâtures. Ouais, il faut bien avoir conscience que du porc ou de la volaille, ça mange des céréales. Donc il faut compter aussi ce qui a été utilisé pour produire ces céréales-là. On a deux étapes, alors que pour produire de la viande, les ruminants mangent directement de l'herbe, donc c'est plutôt bon pour l'environnement.
Cette émission est maintenant terminé. Merci à vous deux, Jean-Paul Signé, Frédéric Courleux, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter via l'application Pure Radio sur votre smartphone ou via votre application favorite de podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.